Nous allons partager quelques priorités qui sont les nôtres avant le retour du Seigneur, parce que nous sommes tous convaincus ici que les temps sont avancés. Nous l'avons étudié souvent. Je pense que peu parmi nous en doutent, vu la convergence des signes dont parle la parole et qui sont devant nos yeux depuis plusieurs années, depuis 48 d'ailleurs essentiellement, puisque c'était la création de l'État d'Israël. Et alors, en réfléchissant à ce thème, de nos priorités avant le retour du Seigneur. J'en ai évoqué quelques-unes, on pourrait étendre la liste, hein, mais on va les énumérer l'une après l'autre. La première, c'est exhortons-nous les uns les autres. C'est-à-dire vivons bien proches les uns des autres en communion, portons les fardeaux les uns des autres, assistons ceux qui sont en difficulté, soutenons les plus faibles, encourageons ceux qui hésitent, ceux qui ont reculé, ceux qui sont hésitants, soutenons-les dans la foi. Et je m'appuie sur ce verset d'Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, on parle du jour qui s'approche. Le mot n'abandonnons pas notre assemblée. L'assemblée, c'est le rassemblement ensemble, hein, parce qu'on peut voyager, être dans une autre église, hein, on a le droit d'être ailleurs. N'abandonnons pas le fait de nous rassembler, donc de nous soutenir par la présence les uns à côté des autres, si on veut paraphraser le mot du grec. Si c'était vrai pour les croyants de l'Église primitive, ça l'est encore plus pour nous, d'autant plus que ce jour approche et que les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour nous tous dans un monde de plus en plus hostile, à la fois aux chrétiens et au peuple juif, on le verra tout à l'heure. Hein. Paul nous dit aussi dans Romains 13, verset 11, la deuxième partie du verset 11, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez, nous avançons et donc c'est normal, hein, plus nous avançons, plus nous sommes proches du salut. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, c'est-à-dire que les choses avancent. Le même auteur de l'Épître aux Hébreux, dont j'ai cité tout à l'heure le verset 25, dit au verset 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers jours ont commencé à la venue du Seigneur. Donc nous sommes depuis la venue du Seigneur dans ces derniers temps dont parle cet auteur aux Hébreux. Donc plus ça va, plus les temps avancent et plus nous devons faire attention à cette exhortation de bien nous soutenir, de bien être proches les uns des autres, de bien nous épauler en cas de difficulté. Hein. Donc, une proximité de cœur, une proximité physique aussi, une proximité, prendre le souci des autres, prendre de leurs nouvelles, se demander s'ils vont bien quand on ne les voit pas, etc. On peut énumérer beaucoup de choses. Hein. Donc, premièrement, exhortons-nous les uns les autres. Deuxièmement, j'ai marqué dans mon titre, ne relâchons pas nos efforts dans la propagation de l'Évangile. À fur et à mesure que nous approchons du retour du Seigneur, redoublons d'efforts et de zèle pour que cette bonne nouvelle se propage. Jésus, dans une parabole, nous disait, Luc 19, verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Oui, il ne faut pas s'arrêter avant que le Seigneur revienne. Faites valoir les mines jusqu'à mon retour. Ne relâchons pas en disant ben, on est proche du retour du Seigneur, on peut maintenant un peu se décontracter. C'est le contraire. Plus on approche du retour du Seigneur, plus il faut redoubler de zèle et de vigilance, parce qu'il y a encore les quelques-uns qui font partie de la plénitude que Dieu appelle et qui va bientôt être complète, disons. Hein. Jésus lui-même s'exclamait, c'est Jean qui nous le dit, Jean 9, verset 4. Jésus nous dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Si c'était vrai pour le Seigneur, c'est encore plus vrai pour nous. La nuit vient où nous ne pourrons pas travailler. La nuit vient dans beaucoup de pays autour de nous où c'est quasiment impossible d'avancer sans risquer sa peau. On le voit tous les jours. Hein. Je suis étonné de tous les matins d'ouvrir les nouvelles et de me dire que chaque jour, il y a de nouveaux terrains dans lesquels l'Évangile est mis en difficulté. Hein. Donc voilà l'avertissement de Jésus. Paul, de même, parlant de ses frères juifs, mais c'est aussi applicable à nous tous, nous pose une question, Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et alors la question, elle est là au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? La question que pose Paul, c'est comment est-ce que ces gens qui sont autour de nous entendront-ils si personne n'est envoyé, si personne ne prêche l'évangile? C'était dans le contexte de la prédication aux enfants d'Israël, mais c'est vrai pour tout juif comme non-juif. Comment est-ce que les gens qui vous entourent entendront-ils si vous n'ouvrez pas la bouche? Donc voilà, Jésus comme Paul nous mettent devant cette responsabilité de ne pas relâcher nos efforts dans cette propagation qui est essentielle au fur et à mesure que nous approchons de ce grand jour que nous attendons. Troisièmement, purifions-nous dans la crainte de Dieu. C'est important parce que c'est toute la partie de la sanctification dans laquelle nous devons travailler jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est bientôt, hein? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le verset 3 nous dit: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc si nous avons l'espérance de cette venue du Seigneur proche, nous nous purifions, nous nous séparons du monde, nous faisons attention à notre voie. Et nous marchons dans cette conformité au Seigneur que le Saint-Esprit veut nous faire atteindre dans son œuvre de sanctification en nous. Pierre dira de la même façon en 2 Pierre 3, 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, il parle de la fin, de la dissolution de cette terre et de tout ce que cette création, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Voilà, Pierre pose la même question. Quelle doit être notre conduite? Ben, c'est une conduite de sanctification, de purification, d'être sensible à l'esprit qui veut nous mettre de côté et nous rendre encore une fois conformes à l'image du Fils de Dieu. C'est étonnant parce que souvent on fait le rapprochement entre Pierre, Paul et Jean, mais ces trois grands apôtres parlent des mêmes choses avec des mots différents. Paul insiste comme Pierre sur la même chose. Il insiste sur la vraie piété et il cite toute la liste des choses qui vont rendre les hommes des derniers temps. Il signifie leur qualificatif comme étant égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il dit ça dans 2 Timothée, et en fait Paul insiste aussi en disant que ces hommes dont on a cité les qualificatifs, qui sont ceux que nous voyons aujourd'hui malheureusement autour de nous, il dit à Timothée donc: ces gens ont l'apparence de la piété, parmi eux, certains ont l'apparence de la piété, mais il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc tous ces hommes qui nous entourent, pas forcément les plus impies, puisqu'il y a toute cette liste d'impiété, mais parmi nous, il y a aussi des gens qui nous entourent et qui nous côtoient, qui sont des gens qui sont on pourrait dire, qui professent la foi chrétienne, mais qui ne sont pas engagés réellement et authentiquement dans un ancrage dans le Seigneur et dans une marche qui soit à la gloire de Dieu. Donc, faisons attention à qui nous côtoyons, parce qu'il faut nous éloigner de ceux qui sont autour de nous et qui nous éloignent de Dieu. Pas seulement, encore une fois, c'est toute cette liste qui est une liste un petit peu caricaturale, mais de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui fait la force. Qu'est-ce que c'est que renier ce qui fait la force? C'est s'éloigner de cette marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire avoir une apparence extérieure, une façade, et en réalité marcher loin du Seigneur et entraîner les plus faibles à leur suite. Donc, éloigne-toi de ces hommes-là, c'est notre mot d'ordre aujourd'hui, hein. Ce sont autour de nous des gens qui sont dangereux, qui nous éloignent de la foi et qui ne marchent pas dans les voies de Dieu. Ne restons pas près d'eux, ne restons pas leurs amis, si on peut dire, hein. Tâchons de les gagner si c'est encore possible. Mais soyons attentifs et prudents parce qu'il y a des loups au milieu de nous et la bergerie n'est pas remplie que de brebis innocentes. Il y a beaucoup de gens autour de nous et parmi nous-mêmes, je peux dire pour l'avoir vécu, parmi nous aussi des gens qui sont là en habit de lumière et qui sont en fait envoyés par l'ennemi pour détruire et pour ravir. Donc c'était le troisièmement, purifions-nous dans la crainte de Dieu. Quatrièmement, prenons les armes spirituelles. Tout le monde connaît ici le passage d'Éphésiens 6. Je ne vais pas l'étudier en détail, mais il est dit dans Éphésiens, Paul nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il insiste vraiment parce que chaque arme a son importance, chacune pourrait être développée, mais et si on prend toutes les armes une par une et voir comme chacune a sa spécificité, son importance pour nous protéger. Je cite donc ce passage de Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que ces armes, c'est pour ça en fait qu'on les prend, c'est pour tenir ferme contre un ennemi qui veut notre qui conteste notre salut devant le Seigneur. Hein. Ceux qui sont sauvés et nés de nouveau ne peuvent pas le perdre, ce salut. Mais qui conteste le fait que certaines âmes puissent s'approcher du Seigneur. Donc, faisons attention parce que il est rusé et il cherche à faire tomber ceux qui sont mal affermis. Et il cherche aussi à faire du mal à ceux qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas sur leur garde. On peut aussi prendre des coups et des flèches sans perdre son salut. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, dit Paul, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si Jésus lui-même a pris les armes du Seigneur, on voit bien comment l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, il a contesté les paroles de Satan dans le désert et à différentes reprises dans son ministère. Si Paul a dû prendre ses armes aussi, et si tous ses premiers disciples l'ont fait, faisons attention nous-mêmes dans ces temps finaux dans lesquels le déchaînement de l'ennemi est de plus en plus palpable, à bien prendre toutes les armes. Vous les lirez vous-même, vous verrez comme chacune, encore une fois, son importance. D'autant plus que nous approchons du temps où l'homme de péché va être dévoilé quand l'enlèvement aura eu lieu, et que ces jours qui précèdent la tribulation sont des jours mauvais, des jours dans lesquels tout se met en place, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel, pour que cet homme de péché dont parle Paul dans Thessaloniciens puisse trouver le terrain propice pour déployer ses manœuvres pendant la tribulation. Et donc il déploie déjà tous ses efforts, mais il les déploie d'une façon déchaînée, si on peut dire, pendant cette période de tribulation, puisqu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'aura pas la même présence, si on peut dire ainsi, puisque l'Église aura été enlevée, il y aura moins de freins pour que le mal se déploie. Le mal va se déployer d'une façon inimaginable. Il suffit de lire l'Apocalypse pour se rendre compte de ce temps tragique qui attend la terre. Et tout ça, c'est pendant le temps qui précède le retour du Seigneur. Nous nous approchons de ce jour et c'est pour ça qu'il faut nous préparer d'autant plus dans ces temps de la fin. Après avoir énuméré les armes spirituelles de notre combat, Paul ajoute une chose importante aussi. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, 18. Donc non seulement prenons les armes, mais faisons en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, à la fois pour les saints, pour ceux qui nous entourent, pour l'Église, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont fragiles, pour ceux qui sont persécutés, comme disait le pasteur. Et les persécutions vont aller de pire en pire, nous le voyons bien et nous le savons puisque la parole nous l'annonce. Donc veillons à prier avec persévérance pour toutes ces formes d'opposition de l'ennemi et de persécution qui se déploient et qui vont se déferler sur ce monde à mesure que nous approchons du temps du retour du Seigneur. Cinquièmement, il y a une autre arme que j'ai soulignée là, qui est une arme un peu plus subtile, si on peut dire, mais il est dit dans 1 Pierre, armons-nous aussi de la pensée de devoir souffrir pour Christ. On ne peut pas éviter la souffrance. Voilà une arme qui est là dans un petit passage de Pierre, 1 Pierre 4, 1. Pierre nous dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le temps qui reste à vivre dans la chair, pour nous, c'est un temps compté, nous voyons bien que nous avançons, mais pendant ce temps qui nous reste à vivre dans la chair, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, armons-nous de cette pensée que nous avons aussi à souffrir. Il n'y a pas que ceux qui souffrent dans les pays lointains, en Afrique et en Asie et dans tous ces pays que nous énumérons souvent dans les persécutions, mais nous-mêmes, nous avons d'autres souffrances par lesquelles il faut comprendre que c'est aussi quelque chose auquel nous ne pouvons pas échapper. Parmi les diverses souffrances de la chair, nous pouvons citer la mortification de la chair. Je ne vais pas développer parce que cette mortification est développée dans Romains 6. Vous pourrez lire comme c'est important aussi de mettre à mort la chair et ses convoitises. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça rejoint l'œuvre de la sanctification, mais c'est l'œuvre de tout homme né de nouveau, tout homme et toute femme né de nouveau, qui veut vraiment marcher pour plaire au Seigneur. Donc mortifier les convoitises de la chair avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous savons que nous avons une nouvelle naissance qui nous a donné une nouvelle nature, que nous sommes nés, si on peut dire, dans un nouveau calendrier à la croix. Nous ne sommes plus en Adam, mais en Christ. Mais malgré tout, nous avons encore cette vieille nature de la chair qui a ses convoitises et qu'il faut mettre à mort. Et c'est difficile, nous avons tous des combats dans des domaines divers. Et ça fait partie pour moi des souffrances dont parle Pierre en disant que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. J'ai cité les persécutions, nous allons lire un ou deux passages qui parlent des persécutions. Donc la mortification de la chair, j'en développe pas trop. J'ai juste cité un verset, Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous avons une lutte tous à accomplir hein, jusqu'à la fin. Il n'y a pas seulement la lutte de l'esprit et du corps, la vieille nature et la nouvelle nature, mais aussi ces convoitises de la chair. Jusqu'au bout de la route, nous aurons à lutter pour parvenir à un état de sanctification progressive, accompagné par le Saint-Esprit qui nous y aide. Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 27, lui-même était soumis aux mêmes souffrances que nous, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul dit donc « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. » Il cherche à tenir esclave, dompter son corps, parce qu'il savait bien qu'il prêchait aux autres, mais que lui-même avait les mêmes combats que nous, et que s'il n'était pas capable d'assujettir ses convoitises et ses désirs de la chair, il risquait aussi d'être disqualifié, si on peut dire, hein, puisque c'est bien de prêcher, mais c'est aussi bien d'agir avant de prêcher, d'agir en conformité avec ce que l'on prêche aux autres. Concernant les persécutions, puisque je développe dans les souffrances la mortification de la chair et les persécutions, je vais vous citer ce passage de Marc 10, au verset 28, où il est dit « Pierre se mit à lui dire, en parlant au Seigneur, hein, Pierre parle au Seigneur, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. » Oui, le mot est là. Hein. « Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc la vie éternelle, ça approche, ne nous décourageons pas, mais des persécutions, ça vient avant. Et c'est ici, c'est bien souligné. Hein. Nous aurons toutes ces choses au centuple, des frères, des sœurs, des maisons, tout ça, mais des persécutions aussi. Paul dira la même chose dans ce passage où Paul et Barnabas qui évangélisent. Il est dit en Actes 14, 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône, et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, vous voyez, persécutions, tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les exhortant à persévérer dans la foi, hein, donc persévérons, sachant que nous aurons des tribulations avant le royaume. Même pensée, même données spirituelles, hein, conseil du Seigneur à travers ce passage de Marc, ce passage d'Actes que Luc nous donne. Et enfin, dans ce domaine de nous armer de la pensée de devoir pour souffrir pour Christ, je cite Paul dans 2 Timothée 2, 11. J'ai pris la version Darby parce que la version seconde parle un petit peu différente. J'aime mieux le texte de Darby dans ce passage, 2 Timothée 2, 11. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Darby parle dans le 2 Timothée 2, 12, si nous souffrons. Le terme peut se traduire souffrir ou différentes façons, mais j'aime bien cette version parce qu'elle va bien dans le sens des autres textes de l'Écriture que nous avons évoqués. Donc si nous souffrons avec le Seigneur, nous régnerons aussi avec lui. Même pensée, même principe spirituel. D'abord souffrir avant de régner. D'abord passer par la tribulation, d'abord passer par différentes souffrances. Et ne croyez pas que ces souffrances ne sont que pour des gens lointains de la France. Qui nous dit ce que sera demain l'état de la France et l'état de la persécution, l'état des... des libertés que nous, dont nous jouissons encore aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout garanties. Donc, mettons-nous, comme le dit Pierre, dans le cœur la pensée de devoir souffrir pour Christ. Ça nous aidera le jour venu à faire face avec plus de courage et plus de soutien les uns des autres. Parce que qui sait ce que sera la France dans un an? Personne ne peut dire. Nous avons été étonnés de ce que sont devenus certains pays qui, d'une année à l'autre, sont méconnaissables et dans lesquels les libertés ont été privées brutalement. Et même nos frères américains se posent la question de la pérennité de ces libertés d'expression de culte, d'expression de foi. Qui sait ce qui nous attend? Donc armons-nous, c'est encore une arme, hein, de cette pensée de devoir souffrir pour le Seigneur. Sixièmement, vivons comme passagers temporaires ici-bas. Oui, tous ces passages, ce sont des passages qui sont rattachés à cette perspective de l'enlèvement, cette perspective du royaume, cette perspective que nous sommes là passagers, temporaires, que nous partons bientôt. Donc, faisons comme tous ces Juifs, hein, qui avaient leurs valises prêtes parce qu'ils savaient qu'ils étaient chassés d'ici et là, et au travers des siècles, ils sont partis d'un pays à l'autre. Ils avaient cet esprit, malheureusement, parce que la persécution les poussait, mais vivons un peu comme eux. 1 Pierre 2, 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui, à la fois il y a voyageurs, étrangers voyageurs, ce que je viens de dire, étrangers ici-bas, et en même temps il cite de nouveau abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc à la fois de marcher dans la sanctification, mais aussi être voyageurs et étrangers. Les deux vont de pair d'ailleurs, parce qu'ils ont l'esprit d'être voyageurs étrangers, nous n'avons pas envie de nous attacher aux choses du monde, nous n'avons pas envie de développer les choses que le monde propose et qui sont des choses illusoires, futiles et passagères. Vous savez que ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu, dira Jean. Donc l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et si le monde nous hait, c'est qu'il ne nous reconnaît pas comme étant des siens. Et c'est bon signe si nous sommes haïs du monde, parce que c'est nous que nous apportons au Seigneur. S'il a haï le Seigneur, il haïra ses disciples, et c'est ce que le monde fait contre nous. Abraham nous a montré le chemin, Hébreux 11, 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Soyons comme Abraham, attendons cette cité, sachant que nous avons à marcher dans la fermeté, dans la foi, dans la sanctification, dans toutes ces choses que nous avons déjà évoquées, mais les yeux fixés sur cette cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte. Si Dieu est l'architecte et le constructeur de cette cité, nous ne pouvons qu'à l'attendre avec joie et avec anticipation, parce que je pense que nous allons être plus que gâtés et plus qu'étonnés de ce que Dieu prépare. Jésus l'a dit, je m'en vais, je me préparerai une place pour vous, et il nous attend, il va bientôt venir dans les airs chercher son Église, ses élus, et nous emmener dans cette cité que nous attendons. Donc attendons-le avec joie, ça nous aide aussi à faire face à ces temps de persécution, à ces temps de souffrance et à ces temps de combat spirituel contre un ennemi qui nous fait la guerre et qui n'arrêtera pas de la faire jusqu'au bout. Septièmement, redressons notre tête. Relevons-nous dans ces temps de persécution, dans ces temps finaux, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps d'opposition de l'ennemi. Redressons notre tête. Jésus, s'adressant aux quelques disciples qui l'interrogeaient sur les événements qui accompagneraient son retour, leur dit: quand ces choses commenceront à arriver, Luc 21, 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Vous voyez, cette délivrance qui approche, c'est une force pour nous, c'est une joie, c'est un encouragement. Nous sommes proches d'un temps où nous allons sortir de cet esclavage, d'un monde qui nous fait la guerre, mais que Dieu a vaincu en Jésus et qui va nous délivrer définitivement. Donc, redressons notre tête, relevons notre tête et anticipons avec joie, bien que dans la souffrance, ce temps qui vient. Parce que la tribulation approche, et encore une fois, la tribulation approche avec son cortège de grandes souffrances, à peine croyables, hein, les souffrances qui viennent. Déjà cette semaine, on regardait quelques documents sur la libération des camps, puisque c'était les 70 ans de la libération, mais je dormais pas bien après, j'étais complètement troublé parce que tous ces juifs et les enfants et les regards d'enfants qui allaient être une heure après dans les cendres de ces camps. Mais ce qui vient sur le monde est pire. Et c'est terrible de le penser, ce qui vient bientôt est pire que ce que nous avons vu il y a 70 ans. Pire à la fois pour Israël, mais pire aussi pour le monde. Les chiffres sont astronomiques. Les chiffres de destruction, si vous les prenez littéralement, parce qu'ils sont littéraux, sont des chiffres à donner le vertige. Donc, redressons la tête, la délivrance approche, mais encore une fois, ne relâchons pas l'évangélisation, nous l'avons dit tout à l'heure, parce que c'est parce que nous approchons de ces temps terribles qu'il faut encore essayer d'en gagner quelques-uns parmi ceux que Dieu appelle et qui doivent rentrer dans l'arche du salut. Paul, lui qui a un pédigré d'épreuves que peu lui envieraient, hein, parce que quand il fait la liste de ses épreuves dans 2 Corinthiens 4 et différents textes, il nous dit en Romains 8, 18, et c'est une clé pour nous aussi encore ce matin, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez, toutes ces souffrances que nous vivons et qui sont rien par rapport à celles qui viennent sur le monde, voilà la clé spirituelle, c'est qu'elles ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Donc si nous relativisons nos souffrances, si nous les mettons bien en comparaison avec la gloire qui nous attend dans ce royaume, nous avons dit que Dieu prépare cette demeure éternelle, la gloire doit surpasser dans nos cœurs ces souffrances. Et je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui souffrent. Beaucoup parmi nous souffrons de maladies, de dépressions, de difficultés, d'opposition, de combats et tout ça. Mais encore une fois, mettons l'étalon de la gloire à venir comme la vraie mesure de ce qui nous attend et nous allons passer plus facilement dans l'épreuve. Ça rejoint d'ailleurs, armons-nous de la pensée de devoir souffrir, parce que la gloire à venir nous aide à nous armer de cette pensée de devoir souffrir pour le Seigneur avant ce jour glorieux. Encore une fois, Pierre fait le pendant à Paul et il nous dit. Comme Paul, 1 Pierre 4, 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Sa gloire qui va bientôt apparaître. Et Paul disait, les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Pierre nous dit, réjouissez-vous, parce que vous savez que le temps vient où l'allégresse que nous aurons dans sa gloire qui apparaît bientôt va arriver prochainement. Donc, vous voyez, les deux vont ensemble, hein? Souffrance, anticipation de la gloire, anticipation de la joie qui vient. Et Paul résumera les choses d'une façon très lapidaire en Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Pas facile, hein? Je vois bien des têtes qui hochent, mais c'est pas facile parce que il y a des jours où on n'a pas envie de se réjouir. Il y a des jours où on a envie de dire c'est trop dur. Ça m'arrive moi aussi de dire Seigneur. Cette semaine, ça a été trop difficile, il y a eu trop de flèches, j'ai eu beau prendre les armes, tout ça, on a l'impression des fois que. Je ne sais pas si Paul se réjouissait toujours, je pense qu'il devait tendre vers une attitude de se réjouir toujours, mais quand je pense à tous ces hommes qui sont des hommes de la même nature que nous, Élie était de la même nature que nous, Joseph, qui est un de mes patriarches préférés dans son histoire, je pense qu'en prison, il a dû aussi avoir des moments de se réjouir, où il se réjouissait, et des moments où il devait se dire, je ne sais pas ce qui sont devenus tous ces rêves et ces songes que j'ai eus. Et tous ces accomplissements que j'ai attendus, ça tarde. Et puis même quand les prisonniers dont il a interprété les rêves sont sortis, il a dû attendre encore 2 ans et se dire, je suis vraiment oublié ce coup-ci. N'en réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, ça veut dire que nous sommes toujours dans les hautes sphères de la joie, parce que les épreuves sont là, nous vont faire face à des choses difficiles, nous vont aussi compatir à ceux qui souffrent, avec ceux qui souffrent, pour pas non plus être un visage joyeux devant ceux qui souffrent. Sur leur lit de mort ou leur lit de maladie et autre chose. Mais réjouissons dans le cœur, ayons cette attitude de joie dans le cœur, de nous dire, malgré les épreuves, malgré ce qui nous entoure, ayons cette attitude d'avoir la tête relevée. Huitième, je vous rassure, il n'y a que 9 points, donc ça vient. Huitième, n'oublions pas Israël. J'ai voulu dire n'oublions pas Israël parce que c'est important dans ces temps de la fin de savoir qu'Israël va passer par des temps tellement difficiles. Que tous les efforts que vous déployez aujourd'hui pour eux sont des efforts qui auront leurs fruits un jour ou l'autre, même s'ils ne sont pas sauvés devant vos yeux. Moi, j'ai des frustrations des fois. Hein. Je me dis, combien de gens, combien de familles, j'ai parlé du Seigneur à des frères et sœurs juifs, ils ne bougent pas vraiment ou ils écoutent poliment, et tout ça. Mais un jour, nous serons partis et ils se rappelleront qu'au milieu d'eux, il y avait des gens qui ont prophétisé la parole de Dieu, qui ont dit les choses telles qu'elles sont, qui ont averti, qui ont semé la semence de cette parole de vie. Israël est le peuple et le moyen par lequel Dieu a choisi de se révéler au monde. Donc, Dieu ne s'est pas repenti de ce choix qu'il a fait. Donc, si Dieu ne s'est pas repenti, gardons le même esprit que notre Père, ayant un cœur qui continue à persévérer dans cette proclamation de la bonne nouvelle du Messie aux enfants d'Israël. Même s'ils ne répondent pas tout de suite, ce n'est pas grave. D'un certain côté, on aimerait bien que des centaines viennent au salut, mais. Vous savez bien que la plupart sont aveuglés pour le salut des gentils, et que s'ils sont aveuglés pour un temps et partiellement, c'est pour le bien de ces nations dont la plénitude va bientôt être complète, et que Dieu veut faire entrer dans cette arche du salut, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'était le thème d'ailleurs du concile de Jérusalem avec Jacques, qui avait, en reprenant la prophétie dans l'Ancien Testament, avait dit que Dieu cherchait parmi les gentils, parmi les nations, un peuple pour son nom. Et ensuite, il relèverait la tente de David. C'est ce qui va arriver. La tente de David va être relevée et le peuple d'Israël va rentrer de nouveau dans ses prérogatives et dans tous les accomplissements prophétiques qui sont inscrits et qui sont sans repentance de la part de Dieu. Jean 4, 22, version Darby Nouveau, à cause d'une nuance du texte. Mais Jean 4, 22, Jésus qui répond à la Samaritaine, ne dit vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez, nous tous qui sommes là, nous devons notre salut aux Juifs, d'une façon ou d'une autre. La parole, les Écritures, la pérennité de la transcription des vieux textes qui sont dans nos Bibles aujourd'hui. Le Messie, bien sûr, hein, les oracles de Dieu, la parole, mais le Messie essentiellement, puisque c'est lui qui est venu dans cette lignée de David et qui nous donne le salut. Donc Jésus disait bien à cette femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Paul, après sa conversion spectaculaire, nous parle aussi de ce mystère d'Israël. C'est pour ça que je dis n'oublions pas Israël dans ces derniers temps. Paul nous dit quelque chose de très important. Je cite deux versets de Romains 11, 25 et 26. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. » Et j'ai envie de vous dire, vous aussi, n'ignorons pas ce mystère ce matin. Afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez, les gentils rentrent jusqu'au jour où la plénitude sera atteinte. Et donc, regardez bien cette chose qui est un mystère révélé à Paul comme quelque chose qui fasse que vous ne vous regardiez pas comme sage. Considérez qu'il y a un plan mystérieux et secret de Dieu qui fait que cette plénitude se met en place et qu'ensuite Israël va rentrer dans ses promesses éternelles que Dieu a faites avec lui. Et ainsi tout Israël sera sauvé, donc tout l'Israël de la fin de la tribulation qui aura connu le Seigneur après des pertes énormes, nous n'allons pas rentrer dans le détail maintenant, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les inquiétés. Et encore, je prends encore deux, trois versets plus loin, non avant, Romains 11, 11, parce que ça vous explique pourquoi il ne faut pas oublier Israël. Paul nous dit, Romains 11, 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Et il s'écrit, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Vous voyez, la clé de votre salut, elle est là. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Il y a un but, qu'ils soient excités à la jalousie. Et donc faites en sorte qu'ils soient excités à la jalousie. Montrez-leur la richesse du salut que vous avez obtenu afin qu'ils aient envie de goûter à ce que vous avez obtenu dans le Messie qui est le leur et qu'ils attendent, mais qui est le leur. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, ce qui vient à la fin de la tribulation? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, encore une fois, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Voilà, le but ce matin, c'est ça, de vous dire. Essayez d'en exciter quelques-uns à la jalousie pour essayer d'en sauver quelques-uns. Faites comme Paul, imitez Paul. N'oubliez pas Israël, dites pas, ben on attend, ils ont la tribulation qui vient, ils vont vivre cette purification. Non, il y en a encore parmi eux qui font partie du reste, selon l'élection de la grâce, et que Dieu cherche. Le temps est proche, ils vont tous se convertir, mais après tellement de souffrances que si on peut épargner à certains d'entre eux ces souffrances de la tribulation, faisons-le. Il est temps. Il est dit dans Romains 1, verset 16, hein, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit Paul, puissance de Dieu pour le salut, du juif premièrement, puis du grec. » N'oubliez pas le juif premièrement, continuez à chercher le juif premièrement et votre ministère sera béni auprès des gentils. Continuez à exciter la jalousie de ceux de la race de Paul, témoignant de l'amour et les dirigeant vers le Messie. Et enfin, dernier point que je souligne ce matin, c'est point numéro 9, « Ne présumons pas de l'avenir. » Faites attention, l'avenir est compté, sans pas. Personne ne peut donner de date, personne ne peut dire exactement ce qui va se passer. Le déroulé, nous avons quelques éléments de prophétie. Le calendrier n'est jamais très rarement donné. Il est donné en Daniel pour le temps dans lequel le Messie devait apparaître, être tranché. Il est donné pour le temps de la tribulation qui est de 7 ans. Donc ceux qui rentreront seront. Il est donné pour le millénium, où le calendrier est de 1000 ans, on le sait d'avance. Mais le calendrier, en général, Dieu ne le donne pas. Donc ne présumons pas du temps qui nous reste. Et relevons les manches parce que ce temps est vraiment dans les mains de Dieu et on l'ignore. Jacques nous dit d'ailleurs dans Jacques 4, 13, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Et il dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, c'est ça, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas ce que sera demain pour vous. Ni moi ni vous, on ne sait pas si on sera vivant demain, on ne sait pas quel sera l'état de notre pays demain. » Car qu'est-ce que votre vie, il continue, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ça notre vie, une vapeur. Un petit temps et on disparaît. Je crois que c'est John Wesley qui disait ça dans un de ses commentaires. Hein. Il savait qu'il était là, une vapeur, qu'elle est passée pendant quelques décennies ou plus et qu'elle est partie comme ça. Vous devriez dire au contraire, continuez Jacques, si Dieu le veut, nous qui vivrons, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, demain nous continuons à évangéliser. Si Dieu le veut, nous continuons à propager la bonne nouvelle aux Juifs, premièrement, si nous pouvons gagner quelques frères juifs. Vous avez tous, je suis sûr, il n'y a pas une famille ici qui n'a pas au moins un ou deux juifs autour de lui, au travail, à l'école, dans les commerces qui l'entourent, etc. Donc continuons, si Dieu le veut. Moïse dira dans le psaume 90, ce psaume étonnant dans cet homme qui a vécu 120 ans, lui nous dit, psaume 90, verset 3, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Oui, la vapeur, elle est là et elle retourne dans la poussière. Fils de l'homme, retournez. Et au verset 12 du même psaume, il enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc ne présumons pas de l'avenir. Moïse le dit aussi, la sagesse, c'est de bien appliquer notre cœur à savoir que nous sommes dans un temps compté, un temps qui est une vapeur qui passe. Ne le gâchons pas. Rachetons le temps, comme dit l'Écriture. Et enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je terminerai par là ce matin, nous dit, il nous parle de cet aujourd'hui, parce que Jacques nous dit, attention, demain, tu ne sais pas ce qui arrivera, mais Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Vous vous rappelez, les Hébreux se sont révoltés dans le désert et ils ont commencé à fabriquer le veau d'or et tout ça. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne dites pas j'ai du temps, demain je pourrai encore choisir, j'ai encore des choses à vivre, ce péché, j'arrive pas à m'en débarrasser, j'ai trop de tentations, je ne peux pas prendre ces décisions. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, n'attendez pas demain. Soyez vraiment sérieux avec votre salut. Et enfin, dans ce verset d'Hébreux 12, 25, et c'est un peu le même avertissement, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si cela et cela, ce sont ces Hébreux qui sont révoltés dans le désert, si cela n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Vous voyez, ce matin, je voudrais vous dire que du haut des cieux, notre Père nous parle, nous adresse des avertissements, nous adresse des signaux d'alerte, nous montrent que nous sommes dans un temps avancé, nous montrent nos responsabilités, nous engagent à persévérer malgré la souffrance, nous engagent à combattre avec toutes les armes du combattant et nous engagent à faire attention dans quel temps nous sommes. Gardons-nous de refuser d'entendre ce Dieu et ce Père qui nous parle et qui nous appelle encore aujourd'hui. C'est mon message ce matin. Je vous laisse avec ce texte d'Hébreux 12, 25. Soyons les oreilles ouvertes, attentives à tout ce que Dieu nous demande de faire. Et restons vraiment dans ces priorités du temps de la fin dans lesquelles j'ai voulu rapidement survoler quelques points pour en donner plus, mais essentiellement ces points. Que Dieu vous bénisse et que cette parole vous fasse du bien à tous. Je vais laisser le pasteur peut-être pour le chant. On pourrait chanter Torrent d'amour et de grâce pour remercier le Seigneur de sa bonté pour nous tous.